Alexandre Moranville-Ouellette. Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société. Tout en débattant des enjeux de société.
Je suis rejoint par mes collègues Julia Paget et Rémi Villemur qui est en studio aujourd'hui de la belle visite. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Salut.
On te salue de loin, Julia. Écoute, je regarde rarement en fait là les palmarès de musique, hein, les top musicaux, hein, ceux qu'on retrouve au haut du classement. Je les regarde assez peu souvent, mais là, je vous avoue, vous avez attiré mon attention sur ce haut de classement là qui comprend beaucoup, mais beaucoup de chansons qui sont, et puis on parle d'un palmarès francophone, là, beaucoup de chansons en franglais. Est-ce que ça a sa place, ça, dans un top francophone, des chansons en franglais, Julia?
Ben, j'avoue que je suis un peu mitigée sur la question parce que j'ai envie de dire, évidemment, d'emblée, on se dit non. Non, ça n'a pas sa place. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de ceux qui font de la musique en franglais. Je pense à Loud, je pense à Clean Friends, Zach Zoya et j'en passe, qui viennent de quartiers soit plus défavorisés, soit plus multiculturels, soit qui sont eux-mêmes immigrants ou qui ont des parents immigrants pour qui le français, c'est genre la deuxième, troisième langue. Alors pour eux, le franglais, c'est pas un caprice, une mode américaine, un manque de volonté. C'est vraiment juste leur réalité. Donc pour moi, le franglais fait aussi partie du paysage francophone. Après, si ça prend toute la place dans les palmarès francophones, on a peut-être un petit problème, mais faut pas être de mauvaise foi et penser qu'il y a comme un grand remplacement du français au franglais.
Ça a sa place, Rémi?
Ben, moi, je vais peut-être vous surprendre, je suis pas interventionniste sur les questions artistiques.
Okay.
Je veux dire, le bannissement, la censure, je laisse ça à la gauche.
Mais pour les palmarès?
Ben, en fait, c'est là le point intéressant aussi, c'est que je trouve qu'on est un peu malhonnête et de mauvaise foi quand on considère que du franglais, c'est du français. C'est-à-dire que si le franglais, c'était du français, ça s'appellerait pas du franglais, ça s'appellerait du français. Mmh. C'est aussi simple que ça. La langue est vaste et diverse, il y a plein de mots qu'on peut utiliser. Et là, il se trouve qu'on utilise franglais pour définir une autre langue qui se trouve, elle, à être la rencontre entre le français et l'anglais. Et pas une rencontre que je trouve si heureuse que ça, si consensuelle que ça, si consentante que ça, dans le contexte québécois. C'est-à-dire que l'anglais et le français sont en conflit au Québec. Il y a une nation de 8 millions de personnes au Québec qui habitent sur un continent de 400 millions d'anglophones. Et là, on imagine que parce que dans des chansons, il y a 50%, 55%, 60% d'anglais, des fois, c'est heureux, c'est festif. Mais non, il y a une lutte qui est en jeu et c'est un combat qui est inégal. C'est comme un combat de sumo entre un gros sumo bien gras puis un gringalet. Puis là, on se dit, ça va finir égal, ce combat-là. Mais non, pas du tout. Il suffit de voyager dans le Canada, par exemple, en Acadie, pour voir que la rencontre entre le français et l'anglais, c'est une rencontre qui est conflictuelle, et c'est ce qui risque d'arriver. Mais je n'interviendrai pas. Moi, je veux dire, j'approcherai pas des artistes de créer en franglais. C'est vrai que les artistes sont le reflet d'une partie de la société, montréalaise, en l'occurrence.
Ouais, mais d'un autre côté, par contre, si on y va, puis je vais aller toucher ta fibre historique, peut-être... T'sais, le franglais, je sais pas si c'est comme ça qu'on appelait ça avant, mais on a utilisé tellement de mots anglophones dans l'histoire du Québec qu'on a pris pour nous. Là. Je m'en vais à shop travailler aujourd'hui. Maintenant, ça se dit. Puis moi, j'ai presque l'impression qu'on parle en français. Ce franglais-là, il est historique, il est vieux, puis il y a une histoire quand même du franglais. Est-ce qu'on devrait pas le comptabiliser presque dans la culture québécoise, Julien?
Moi, je pense qu'il faut faire une distinction entre l'anglais américain, l'anglais du rock, là, du rest of Canada, puis l'anglais qui peut être parlé par des immigrants ou des gens issus des milieux de l'immigration de près ou de loin, qui sont en transition vers le français. Tout ça, c'est pas la même expérience, puis il y a pas nécessairement une américanisation, je le disais. C'est vrai que, je l'ai dit plutôt, là, idéalement, ce serait juste en français. Mais ces gens-là font l'effort de chanter quand même en français et pourraient se tourner vers le reste du Canada ou les États-Unis. Je pense pas qu'il y a ce grand remplacement. Je pense pas que c'est si dangereux que ça. Moi non plus, évidemment, je n'interviendrai pas. Mais je pense qu'en se confinant au français que nous, on parle, disons, on exclut beaucoup de gens qui ont pourtant un intérêt pour le français, visiblement, puisqu'ils le chantent. Puis quand on chante en franglais, on se refuse une carrière aux États-Unis ou dans le reste du Canada. Moi, je vais toujours choisir une chanson en franglais à la radio plutôt qu'une chanson française de France, par exemple.
Ouais, mais en même temps, est-ce que le franglais, ça passe mieux? Une autre question qui me vient. Est-ce que ça passe mieux quand c'est dans certains genres musicaux? Bon, je pense entre autres au rap. T'sais, le rap, c'est un style qui, historiquement, va s'accaparer t'sais, des inspirations d'un peu partout, de d'autres styles, de d'autres genres, de d'autres cultures, de d'autres langues. On le voit là. Est-ce que ça a sa place plus dans le rap qu'ailleurs, Rémi?
Ça a sa place partout. Faut pas intervenir. Faut laisser les choses quand même. Les choses telles qu'elles se passent, elles nous disent quelque chose. Mais je suis pas d'accord que les artistes qui chantent en franglais se ferment à une carrière internationale. Là, je regardais récemment un peu par hasard les détails de la tournée de Loud, puis ils présentent des spectacles dans le Canada anglais tout l'été. Là. Mm. Donc, et je pense pas qu'ils présenteraient des spectacles dans le Canada anglais s'ils chantent en français exclusivement. Ouais. Ils s'en vont pas juste dans des villes où il y a des concentrations fortes de franco-canadiens. Là. Je dis, il faut juste se poser la question. Tu parlais de la chope, du langage, du joual, de l'ouvrier des années 50-60. Cette personne-là n'était pas en situation de supériorité par rapport à sa langue.
Non.
C'est un ouvrier qui travaille pour un boss, puis il adopte le langage du boss. Donc, c'était pas positif à l'époque, et je me demande si ce l'est devenu aujourd'hui. J'en doute.
Non, je comprends, mais il y a quand même un... On peut parler quand même de premier, si on veut, d'ancien franglais, peut-être. Est-ce que moi je pose la question, est-ce que le franglais, on devrait le prendre puis le mettre justement à part entière, une nouvelle catégorie, le top de la musique franglaise, oui. Par exemple. Est-ce qu'on devrait parler de l'histoire du franglais comme bien une richesse de la nation québécoise? On l'a utilisé justement à un moment où on avait une infériorité de langue. On l'a utilisé pour justement se débattre, se dépêtrer dans tout ça. Et aujourd'hui, c'est rendu un outil justement pour exporter peut-être des produits culturels comme ça dans le rest of Canada. Est-ce qu'on devrait créer une nouvelle catégorie à part entière pour le franglais, Julia?
C'est pas fou. J'avoue que j'y avais pas pensé. Puis c'est vrai que c'est intéressant cette notion du franglais qui était parlé avant versus le français qui est parlé aujourd'hui. C'est vrai qu'on a moins le rapport boss-ouvrier. Bon, ça peut se faire encore, mais dans la musique, en tout cas, c'est moins ça. Puis quand on utilise le franglais, on n'utilise pas l'anglais de notre patron. On utilise l'anglais d'un autre pays, des Américains, par exemple. Le rapport est complètement différent. Moi, je serais assez pour une catégorie franglais, même si, bon, ça apparaît peut-être un peu absurde, là, mais peut-être de plutôt avoir une catégorie française un peu plus restrictive. Mais après, est-ce que les catégories françaises incluent les Français d'outre-mer, de l'Afrique, du Maghreb, de la France, d'ailleurs? Ça, je sais pas, puis ça pourrait aussi enrichir notre français ici, pourquoi pas?
Franglo-québécois, en ce moment-là?
Oui!
moi, j'ai juste la difficulté à considérer que c'est du français, c'est tout. Si c'était du français, ça s'appellerait du français.
C'est ça, c'est du franglais.
Donc, une catégorie franglaise, moi, je suis pour ça. Oui, en faveur.
Complètement différent.
Je vote pour.
Bon. Et on parlait évidemment là, toute la semaine, on en a parlé, puis ça revient là de tout ce qui est logement, hein. C'est demain quand même la fête du déménagement, mais quand on parle de logement, on parle d'habitation, on parle d'immobilier, moi il y a un autre dossier qui est venu me chercher, celui des bureaux, hein, parce que oui, moi je suis appelé à travailler ici comme ça dans le bureau de Cube Radio, puis parce que qui dit bureau dit studio, c'est comme ça que je peux vous parler ici, j'ai pas le choix d'être ici, mais de ramener les employés au bureau, ça s'avère quand même une difficulté, encore plus dans les entreprises qui, par exemple, œuvrent majoritairement dans le numérique. Il y a des géants du web, là, par exemple, comme Google, qui font des pieds et des mains, au final, pour ramener les gens au bureau, qui vont créer des espaces, justement, de travail collaboratif qui sont complètement déments. Il y a des installations qui sont vraiment exceptionnelles. Est-ce que vous pensez, est-ce que vous croyez encore au bureau? Avez-vous la foi en le bureau, Rémi?
Ben là, tu parles à quelqu'un qui écrit dans la vie, donc je te dirais que je crois à mon bureau, peut-être pas au bureau des autres, mais
un bureau partagé.
Je suis un peu, j'ai pas encore fait toute ma tête là-dessus, mais je sais qu'il y a quelque chose qui est très manifeste de la nouvelle génération. Les gens veulent de moins en moins travailler. Ça, les dossiers s'accumulent dans la presse, des semaines de 4 jours, des journées de 6 heures, des après-midi off le vendredi, et à partir du moment que les entreprises savent que ça existe, ce phénomène-là, elles sont appelées à réinventer l'organisation du travail, de l'expérience du travail à proprement parler. Donc, elles se disent, si je veux ramener mon employé au bureau, je suis quand même mieux de faire en sorte qu'il ait l'impression qu'il est un peu chez lui. Parce que sinon, lui, il insiste. Google dit que à peu près 10% de leurs employés ne veulent pas revenir. Puis l'excuse qu'il donne, c'est la COVID. Mais c'est tellement l'argument parfait. Mais c'est pas à cause de ça que les gens veulent pas revenir.
Parce que c'est beaucoup plus plaisant de travailler en jogging chez soi.
Et c'est que le prétexte existe, donc on l'utilise. Donc Google s'est dit, on va faire en sorte que quand ils arrivent au travail, ils aient l'impression d'être chez eux. Des coussins, une cantine, de la musique, une ambiance. À ce moment-là, t'es un peu chez toi, t'es un peu au travail. On peut pas être contre la vertu. Mais qu'est-ce que Google essaye de faire à long terme? Ça, c'est une question que je me demande, parce que Google n'a pas la réputation de faire des choses en petit, hein. Je pense qu'ils inventent un peu, ils ont réinventé l'humanité. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce que Google essaye de faire? Je me dis, Google essaye peut-être de faire en sorte que, à long terme, les gens confondent le travail et le quotidien. Si t'arrives au travail puis que t'es comme chez toi, ben, dans le fond, l'heure de plus que tu devrais pas consacrer parce que tu débordes sur ton horaire, tu vas peut-être la faire, tu sais. C'était quasiment mieux au travail que t'es chez toi. Mmh. Donc, peut-être que la vision à long terme de ces entreprises-là, c'est de faire en sorte qu'on confonde le quotidien et le travail.
Julia, toi qui es une académique en ce moment encore en train de travailler, ben tout comme Rémi, mais est-ce que toi tu crois en le bureau? As-tu foi en le bureau?
Moi, pendant la pandémie, je n'avais pas foi en le bureau et maintenant, je pense que oui. Si vous m'aviez demandé il y a comme quelques mois, j'aurais dit, ben non, télétravail, on est chez soi, on sauve du temps, on est plus confortable, on s'habille comme on veut. Mais il y a d'autres enjeux peut-être qui rentrent en ligne de compte. Premièrement, c'est pas tout le monde qui a les mêmes conditions de télétravail. Pour certains, la maison est pas un lieu propice à être assis à son ordinateur toute la journée. Aussi, de vivre, manger, dormir, travailler dans le même endroit qui est pour la majorité des gens pas très grand, ça peut être lassant, déprimant. On est comme dans une cage de lion. Et ça nous coupe aussi beaucoup de socialisation. Je pense que 10% des gens qui veulent pas revenir au bureau à Google, moi, j'aurais pensé que ce soit beaucoup plus que ça, mais visiblement, les gens ont envie de rencontrer des gens à l'âge adulte. Comment on socialise? Ben, c'est au bureau. On fait des nouveaux amis, des nouvelles relations. Ça peut briser un peu la solitude du télétravail. Après, moi, je suis vraiment de l'avis de Rémi. Je pense que ce que Google fait et plusieurs autres grandes compagnies, c'est de vraiment brouiller les lignes entre la vie personnelle et la vie au travail. Ils ont un barista, un studio de yoga, des œuvres d'art. Mais, je veux dire, c'est surtout bien d'avoir des vacances, des fins de semaine, des horaires raisonnables. Puis ça, c'est pas nécessairement ce qu'ils proposent dans leur nouvelle façon de voir le travail.
Ouais.
Donc, barista, je veux bien, mais bon, il faut qu'il y ait des changements. Peut-être un peu plus de fond.
Ouais, de fond, mais je pense qu'après la pandémie, il y a quand même une vertu à revenir ici en personne et de rencontrer ses collègues, qui sait, hein, il y a des amitiés, même des rencontres amoureuses qui peuvent se faire pour le restant de nos jours, hein. C'est pas pour rien qu'il y a autant de sitcoms de travail, de comédie au travail. Julia, Rémi, merci à vous deux, on se reparle lundi.
Merci.
Merci.